We can continue then with Mark Chauffeur, and our organizer and presenter as well. And,
une seconde pour descendre de ces hauteurs et revenir au niveau maternel. Et qu'est-ce qu'on fait pour maternel de cette vidéo? En maternel de samedi matin, on fait du coloriage, vous voyez. Alors là, il y a du coloriage. J'appuie mes explications sur l'examen détaillé sur l'examen détaillé d'un texte qu'on a déjà rencontré deux fois au moins, hier et aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est la proposition 5-6 qui est une réécriture de la proposition 123 des éléments de théologie, qui est d'une importance centrale pour notre propos. Alors, code couleur pour montrer les interventions du traducteur fonctionne de la manière suivante, n'est-ce pas? Vous avez une succession de couleurs qui soulignent des séquences qui rendent littéralement ou non quelque chose dans le texte de départ, dans l'ordre vert, violet, rouge et bleu. Vous avez la même chose en traduction, par endroit, pas pour le tout, parce que notre promenade devra probablement se terminer au pas de course. Donc, on examinera certains lieux de façon plus détaillée que d'autres. Ce qui a été estompé dans le texte de départ et dans la colonne grecque, en gris, ce qui en revanche vient d'ailleurs que du texte de la proposition 123 est en gras. Alors il y a certaines sources qu'on a déjà rencontrées hier justement, ça va me gagner du temps. Richard a hier évoqué pour ce passage-là source dans le plotin arabe. La question plus généralement est se demander ce qui préside, quelle est l'intention philosophique qui préside au travail de réécriture, de composition plus exactement, d'adaptation, et d'essayer de suivre pas à pas cette démarche. Alors, la référence à nommer est évidemment encore une fois Christina Dancorn, et je me réfère en particulier à son étude source et structure du Liber de Causis, qui étudie génériquement les types de réécriture auxquels le texte de Proclus a été soumis pour devenir le livre du bien pur arabe. Cite l'expression de Christina Dancona qui résume la situation de la manière la plus simple et la plus limpide qui soit. Christina Dancona, dans la partie conclusive de son étude, écrit « Lorsqu'il a rencontré dans une proposition proclienne un point de doctrine qui lui semblait inacceptable, l'auteur l'a ou bien aboli ou bien remplacé par une phrase nouvelle. » C'est simple, hein. Ce n'est rien d'autre que ça, effectivement, de ce point de vue-là. Alors, pour davantage de précision, une phrase nouvelle qui est le plus souvent tirée d'une autre proposition du livre des causes. Ce pourquoi de nombreuses propositions du livre des causes sont des patchworks composés à partir de plusieurs propositions de Proclus, dont, avec le souci d'établir une consécution logique du discours qui sert le propos de l'adaptateur. D'une part, deuxième aspect, cette... Oui,
voit rien là.
On ne voit rien. Ah ben ça c'est très dommage. Il va falloir alimenter le portable. De toute façon, ouais. Deuxième aspect, cette réécriture, elle va généralement dans un sens plus aristotélicien que son modèle. Et quand je dis aristotélicien, je n'entends pas Aristote, mais j'entends l'idée que l'on pouvait se faire de ce que devait penser Aristote à l'époque. Le personnage théorique d'Aristote dans le cercle d'Alkindi, ça n'est pas Aristote, il faut bien l'entendre, n'est-ce pas ? C'est au moins un Aristote qui considère Dieu est une cause efficiente, créatrice de l'univers, hein, sans quoi on ne l'aurait de toute façon jamais adopté dans un contexte pareil. Donc le fil conducteur pour lire ça, c'est interpréter le sens, la signification de la réécriture, c'est se demander s'il ne répond pas de façon extrêmement précise à des exigences philosophiques et théologiques typiques du cercle d'Alkindi, puisque, comme on l'a rappelé hier, Richard Taylor, c'est dans ce milieu, c'est-à-dire dans la première moitié du 9e siècle, début de l'ère abbasside, que toute cette littérature, c'est-à-dire traduction et adaptation d'Aristote, ont été produites, et dans ce contexte, la limite même entre traduction et adaptation, réécriture, est très difficile à établir. S'agit-il d'une traduction ? Jusqu'où commence, si vous voulez, la paraphrase ? Où s'arrête la traduction ? Dans bien des cas, ce n'est pas évident. Dans le cas du De Anima, alors je montrerai tout à l'heure si j'en ai le temps, que ce texte, cette réécriture-là, suppose une connaissance préalable du De Anima d'Aristote, dont la première traduction a été faite précisément à l'époque d'Alkindi, et que parfois aussi on attribue à Ibn Naïm al-Khamsi. C'est le cas de Gaethje, n'est-ce pas, qui a retrouvé un nombre assez important de correspondances verbales entre le vocabulaire de la théologie d'Aristote, notamment dans certaines translittérations, et l'ancienne traduction du De Anima. Alors ça, c'est pas insignifiant. Et puis, où s'arrête la limite entre le vrai Aristote et le pseudo-Aristote ? Y a-t-il un semi-pseudo-Aristote ? La réponse sera aujourd'hui également oui, parce que on pourra montrer, en lisant le texte, que non seulement, si vous voulez, cette réécriture présuppose la connaissance du De Anima d'Aristote et sa théorie de la connaissance empirique, qui est exactement inverse à celle qui se trouve dans le texte de Plotin, bien sûr, de Proclus, mais il présuppose aussi la connaissance des parva naturalia arabes. En arabe, le Kitab al-Hiss wal-Marsous, donc intitulé d'après le nom du premier des traités, des Sensu et Sensato, qui lui aussi, alors qui est inédit, qui se trouve dans un manuscrit unique en Inde, découvert il y a une vingtaine d'années, et qui est encore en cours d'édition par Madame Hansberger. Ce manuscrit est horriblement corrompu et le travail d'édition sur ce manuscrit unique est évidemment une tâche très très lourde. On nous dit que c'est sur le point de paraître, mais bon, on l'a déjà entendu il y a très longtemps, donc je ne sais pas. En tout cas, avec le manuscrit, le travail sur le manuscrit suffit. Ce manuscrit est très corrompu, avec des images aussi très difficiles à lire, permet au moins de se rendre compte que Averroès paraphrase d'assez près le texte du De Memoria, du De Memoria, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de la version arabe du De Memoria. Or, qu'est-ce que la version arabe du De Memoria et des autres petits traités d'histoire naturelle ? C'est un mélange composé d'un tiers d'Aristote, d'un tiers de Plotin et d'un tiers de Galien. Quand les Arabes parlent de la dianoïa, qui est al-fikra al-mufakira, ils entendent en réalité la doctrine de Galien, qui a été incorporée au De Memoria d'Aristote, de semi-pseudo-Aristote, hein, avec cette théorie des sens internes, hein, la cogitation comme sens interne, la dianoia, mufakera, dianoia, comme sens interne, faisant partie des sens internes. Hein. Alors, de là, évidemment, naissent toute une série de questions. La personne qui écrit ça a-t-elle le sentiment de falsifier quoi que ce soit, ou a-t-elle l'intention, sait-elle que ce qu'elle écrit n'est pas que ce qu'elle réécrit et traduit n'est pas de l'Aristote, ou non, on n'en sait rien, mais de toute façon, il s'agit de produire un résultat final qui est ce que Aristote aurait dû dire. Peut-être aussi y a-t-il en arrière-plan une autre considération qui est assez culturellement assez plausible, c'est la notion de l'altération du tahrif, vous savez. On a par exemple chez Avicenne une notation qui montre que Avicenne considérait que le texte de la théologie d'Aristote, qu'il considère comme un texte authentiquement aristotélicien, avait été par endroits falsifié. Ce réflexe soupçonner la falsification, c'est un réflexe de théologiens musulmans qui, de la même façon, affirme, d'après le Coran, que les écrits, les textes sacrés des juifs et des chrétiens, la Torah et l'Évangile au singulier, ne sont pas les textes originaux, mais que les juifs et chrétiens ont falsifié leurs propres écritures. Hein, et que, par conséquent, ce qui est dit de la Torah et de l'Évangile dans le Coran, seul, est vrai. Hein. Il y a ce réflexe. Alors, se peut-il que face à ce texte de Proclus, on ait soupçonné, qui était peut-être censé être d'Aristote, on ait soupçonné une falsification d'Aristote qui rendait nécessaire de mieux rétablir la cohérence interne d'Aristote, ou de semi-pseudo-Aristote, ou de, sachant qu'Aristote est un personnage théorique, hein, qui, sous l'égide de qui est mis toute la tradition philosophique à l'époque. Hein. Il est considéré comme le premier maître, al-Muallim al-Awwal. Hein. Toute philosophie a pour source Aristote. Aristote authentique, pseudo-Aristote, semi-pseudo-Aristote, tout ce qu'on veut. Hein. Comme rappelait, donc je peux me dispenser, n'est-ce pas, parler longuement du cercle d'Al-Kindi, puisque Richard Taylor l'a fait hier suffisamment, j'ajoute, il a notamment, donc je rappelle quand même que nous sommes dans une période bien précise, hein, cette activité du cercle d'Al-Kindi, elle est à situer vraiment précisément du point de vue de l'histoire politique aussi, hein, de l'histoire du règne de trois califes entre 813 et 861, calife Al-Ma'mun, hein, Al-Mu'tasim, Al-Wasil. Après quoi, les conditions d'exercice des philosophes, des falasifas, changent dans la capitale de l'Empire abbasside en raison d'une réaction sunnite, si on peut parler ou traditionnaliste, initiée par le calife, le successeur de Al-Wasil, le calife Al-Mutawakkil, qui, comme on le rappelait hier, a fait emprisonner Al-Kindi, n'est-ce pas, tandis que les prédécesseurs persécutaient les musulmans traditionnalistes, puisqu'ils ont imposé comme doctrine officielle de l'Empire, ils en avaient le pouvoir à l'époque, on est à une époque où la prédominance du droit musulman, hein, et donc l'autorité des docteurs de la loi n'est pas aussi institutionnalisé qu'aujourd'hui. Le calife abbasside, les premiers califes abbassides sont des papes, en quelque sorte des papes de la religion islamique. Hein. Ils ont le droit de promulguer des formules dogmatiques. Hein. Et ils sont disputés. Hein. Et on est là dans un contexte où il y a une opposition entre un courant qui fut animé à l'époque par Ibn Hanbal, hein, un courant traditionnaliste, et ça joue, ça y est pour beaucoup, dans la lecture qu'on peut faire de ça. Et donc la doctrine Mu'tazilite, qui est la doctrine officielle. Alors, je rappelle deux points pour pouvoir envisager la lecture du texte. deux points de la doctrine moapazélite, qui est donc religion, qui est doctrine d'État, hein, à l'époque où on produit ça. Alors, l'islam est la religion de l'unicité, du tawhid. Ce thème trouve probablement ses racines dans une synergie avec la théologie moyenne-orientale de l'époque précédente, hein, qui voit aussi la naissance du kalam musulman. On trouve des... on en trouve un modèle, le modèle de ce curriculum de théologie dans, par exemple, le défi des orthodoxes de Saint Jean Damascène, où il y a une consécution de thèmes, démonstration de l'existence de Dieu, discussion sur l'unité et la trinité, etc., qui se retrouvent aussi dans les traités de Kalam. Hein. C'est un modèle... Alors, on peut faire l'hypothèse que les discussions du Kalam ont surgi en interaction avec une pratique dans un débat interreligieux avec certaines habitudes scolaires des chrétiens melkites à l'époque omeyyade, jusqu'à arriver à la constitution de Nutera. De même que le thème du côté chrétien c'est unité-trinité, du côté musulman c'est tawhid pur et dur, n'est-ce pas hein. Du côté mu'tazilite, je vais dire, en particulier. Alors, conséquence très importante de l'unicité du tawhid absolu de Dieu, c'est une transcendance qui suppose que ce qui est dit de Dieu, ça c'est très important, ce qui est dit de Dieu musulman, hein, dans le texte sacré, c'est-à-dire ce qui lui est attribué, wasp, sefa. Hein, on a parlé tout à l'heure des sefats, etc. Mais il y a un sens générique et large de sefats, qui est tout ce qui est prédiqué de la divinité dans le texte révélé. Hein, sefa, c'est ça la sefa. Et puis après, dans la tradition scolaire des écoles théologiques, ce sont aussi les fameux sept attributs, l'ouïe, la volonté, la puissance, etc., le pouvoir, le prodra, c'était la question tout à l'heure. Hein, mais d'une façon plus générale, c'est tout ce qui est dit de Dieu dans le Coran, en somme, hein, c'est une sefa. Hein. C'est un wasp, c'est du wasp. Bon. Eh bien, tout ce qui est dit de Dieu selon les mu'tazilites dans le Coran est en fait impropre à connaître l'essence divine. Hein. Ce sont des images. Ce sont des images qu'il faut interpréter de manière allégorique, mais elles ne constituent pas un contenu positif de connaissance sur ce qu'est Dieu. Hein. Donc, deuxième. Corollaire de cela, c'est que la formule dogmatique mu'tazilite qui s'exprime telle qu'elle est exprimée à l'époque, alors je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails de Tabaqat al-Mu'tazila de Ibn al-Murtada, mais il y a un arrière-plan islamologique aussi derrière, hein, qui est considéré, que je peux essayer de résumer. C'est seulement une fois le raisonnement, l'argumentation dialectique de l'école mu'tazilite, en l'occurrence, est prime sur la connaissance transmise. Or, ça se dit en arabe, al-raql, hein, le raisonnement al-raql. Al-raql, c'est aussi le nous néoplatonicien, le nous d'Aristote, etc. C'est tout ça à la fois, vous voyez. Hein, une grande... alors, la doctrine mu'tazilite, al-raql, Rable à Naples, vous voyez, une jolie assonance. Hein. Le Naples, c'est la connaissance transmise par la révélation, et à la Rable, c'est la connaissance rationnelle. Donc, pour un mu'tazilite, ce n'est qu'une fois prouvé rationnellement par les arguments dialectiques hein, la vérité de ce qui est dit dans le Coran que l'on peut accorder foi au Coran. Hein, voyez. Alors que pour l'autre camp, le camp des traditionalistes, le Rable, qui est un terme coranique aussi, signifie simplement pour l'homme s'approprier le contenu de la révélation, hein, mais pas en faire la vérification rationnelle. Hein. Et là, on a le courant hanbalite. Et c'est dans le cadre de ce conflit entre les uns et les autres que se déroule le travail d'Al-Kindi et de son cercle. Hein. C'est bien et puis, alors, le deuxième trait, c'est évidemment la promotion donc, de ce pour ce qui concerne le cercle d'Al-Kindi, c'est la promotion de la figure d'Aristote comme, je l'ai déjà dit, comme premier maître, Mu'adh ibn Awwal, hein, qui explique aussi en bonne partie les attributions et la multiplication des pseudo-Aristote, évidemment. Alors, voyons, si vous voulez, la première séquence qui correspond au théorème hein, de Proclus. Et aux séquences de 1 à 3 ici. Hein. Il y a plusieurs observations intéressantes à faire. Il y en a une que l'on peut presque s'épargner, c'est que si on prend le texte de Proclus et qu'on le résume, hein, toutes les énades ne sont pas connues, de Pantotéon ou toutes les énades, tous les dieux, etc., ne sont pas connues des êtres seront par elles-mêmes, mais par les êtres qui en participent. D'accord ? Et parce qu'elles sont participables. Et elles sont connues à travers ceux qui participent d'elles. Seul le premier est absolument panthélos, hein, inconnaissable. Et les énades aussi sont inconnaissables, mais seulement par elles-mêmes, connaissables à travers les êtres qui en participent. En gros, je parle là sous le contrôle de Philippe Hoffman, évidemment, hein, mais c'est comme ça que ça doit s'entendre, en gros, n'est-ce pas? Donc, la distinction entre Toteion et Toproton est ici fondamentale, hein, puisque c'est là que se joue la différenciation. Alors, naturellement, la réécriture écrase cette distinction qui est fondamentale à tout le déroulement de l'argumentation de Proclus en écrivant à chaque fois al illat al oula, n'est-ce pas? Ici, comme. C'est moi qui ai du mal à lire sur l'écran. Non, c'est trop là. Hein. Non, c'est bien, ça va, ça va. Bon, d'accord. Al illat al oula, n'est-ce pas? La cause première. Ici, pantoteion, et ici, toproton, qui est al-awwal. Mais dans le vocabulaire de la théologie d'Aristote, c'est littéralement traduit ça. Hein, toproton, al-awwal, c'est littéralement traduit. Mais du pour le Liber de Causes, al-ahil al-oula et al-awwal, c'est strictement le même sujet. Or, dans le texte de départ, c'est deux sujets fondamentalement différents du point de vue de leur statut hein, ontologique. Bon, alors ça entraîne, il y a maintenant une deuxième observation à faire. Le fameux thème de l'ineffabilité et de la non-connaissance ou de l'inconnaissabilité, hein, tous les êtres divins, tout le divin, tout l'être divin est. Et en raison de son caractère super essentiel, est premièrement dans l'ordre du texte grec, aréton, indicible, et agnoston, inconnaissable. Alors on pourrait être tenté, évidemment, de comprendre, c'est d'ailleurs ce que les gens font généralement, c'est pas de considérer que. Lorsque il est dit ici plus haut que, littéralement plus haut que l'attribut, hein, au-dessus de l'attribut, ala men asefa, que ça correspond à l'indicible, tandis que agnoston serait paraphrasé par l'expression Rajizat l'alson, Ransefatiha, les langues sont incapables de le décrire. Comme vous le voyez, ça c'est la séquence en rouge. En réalité, c'est plutôt l'inverse. Vous allez constater, et il faut pouvoir l'observer, que régulièrement, c'est le terme agnoston ou gnosis qui est rendu par la sefa, par l'expression de sefa. Regardez, ici c'est une vérification. Vous voyez, ici, dans la séquence, le bout numéro 3, Agnoston, Yafoku, Asefa. Il excède cette fois-ci. Enfin, alors, Arla maintenant Stéphane, et Yafo, Stéphane, c'est dans les deux cas, il dépasse l'attribution, hein, il est au-dessus de l'attribution. L'idée de l'inconnaissabilité est traduite dans cette réécriture, mais qui est une traduction, par l'idée d'être, de dépasser l'attribut, c'est-à-dire au-dessus de l'attribut, c'est-à-dire que les attributs ne le touchent pas, les attributs dont parle les motets Calvimon, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas saisissable par les attributs. Hein, c'est-à-dire que quand vous lisez le Coran sans avoir la démonstration rationnelle de la vérité du Coran, hein, ou l'argumentation rationnelle qui atteste de la vérité du Coran, vous n'avez pas de connaissance. C'est pas de la connaissance. Hein, c'est ça la thèse. Voilà l'arrière-plan. Donc, c'est une traduction interprétative, mais c'est même une traduction. Hein. Il ne faut pas imaginer que le traducteur est un imbécile, il est même probablement plus lettré que nous, et c'est un choix. Hein. Alors, où s'arrête la traduction, où commence l'adaptation? Au fond, est-ce que dans son contexte, dans le contexte dans lequel lui-même reçoit la chose, est-ce que ce n'est pas la seule traduction possible, hein, vous voyez? On peut se poser la question. Quant à, en l'occurrence, vous voyez, il a inversé les deux adjectifs qui caractérisent l'essence divine. Areton est rendu par une expression avec une résonance coranique. Hein. Je ne vous donne pas les références coraniques. Les langues sont impuissantes à la qualifier. Il y a de multiples résonances coraniques dans cette expression. Hein. Donc, ça n'a déjà plus rien à voir avec Proclus, vous voyez, hein, à quel point on est déjà décroché. Alors, ce décrochage se redouble par le fait que, et là il y a une intervention, hein, lorsque Proclus donne la raison pour laquelle le divin est inconnaissable et ineffable, c'est dia ten hyperousion enosim. Bon, c'est-à-dire à cause de son unité suressentielle. Mais regardez comment le traducteur arabe ou l'adaptateur arabe réagit à cela. J'ai du mal à croire qu'il n'ait pas compris ce que ça voulait dire. Mais là, il a dû délibérément adapter. Hein, puisqu'il écrit contre Proclus, hein, si vous voulez, contre la version qu'il a de Proclus, croyant qu'Aristote ne pouvait pas avoir dit ça, hein, Aristote n'a sûrement pas dit ça. C'est ça la conviction de la personne qui travaille, en raison du caractère de son ennemi, de son être. Alors, là où, d'un côté, on nous dit il est au-dessus de l'être, en raison de son caractère unitaire, de son énosis, eh bien, là, très consciemment, hein, l'adaptateur, dit en raison du caractère de son être. Mais Ajli wasfi anniyatihi, parce qu'il est au-dessus de toute cause. C'est la cause première. Il n'y a pas de cause après lui. On tombe sur nos pattes. Et là, vous voyez en l'occurrence une intervention qui est d'ordre doctrinal. Il s'agit de gommer l'idée d'un un au-dessus de l'être pour le ramener pour ramener l'un à l'être. Et ça, ça n'a rien à voir avec Porphyre, enfin, pas directement. Hein. On ne va pas dire que Porphyre est venu réécrire Platon aussi. Non, pas du tout. C'est évidemment un choix dicté par des a priori, un a priori qui est on doit rendre Aristote conforme à Aristote. Voilà, hein, ou pseudo-Aristote conforme à Aristote. Aristote tel qu'il est entendu par ces gens-là, plus souvent. Alors, à partir du moment où on a renoncé à distinguer Toteion, les énades, et Toproton, dont le second est imparticipable, et le divin étant imparticipable, cette distinction a été gommée déjà, hein, on a gommé les deux sujets différents. Hein, donc les uns sont participés, les autres non participés. Eh bien, on est amené naturellement à supprimer aussi toute référence à la participation dans le texte qu'on écrit. Hein. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'on a, supprimé ce passage. Et puis ensuite, il y a un, si vous voulez, le traitement de cette séquence-là. Hein, là, vous avez un datif qui porte sur la première partie de la phrase. Hein, agnoston, passi, tois, deteros. On a l'impression que l'adaptateur a rattaché, tout en écrasant presque tout le reste de la phrase, a rattaché ces deteros qui sont. Qui n'était peut-être pas au datif dans le manuscrit qu'il avait. Il avait un texte corrompu 5 minutes. Alors oui, bon d'accord. Soit. Je veux dire. Alors 5 minutes. D'accord, oui. Bon, alors ça vous donne une idée de la type de démarche que j'expose dans un texte écrit qui, évidemment, alors, une dernière. Alors, dans les 5 minutes, hein, dans un résumé qui ne sera pas fulgurant, mais qui sera résumé, alors, regardons 5 minutes ceci, si vous voulez, hein, vous êtes obligé de passer là. On a un texte qui nous explique pourquoi pourquoi le divin est inconnaissable, hein, pourquoi le divin, le premier, tout est inconnaissable par soi, hein. C'est parce que il n'y a de connaissance que d'être. D'accord, l'être, il est soit intelligible, hein, ça c'est le texte de Proclus, il est soit sensible, soit intelligible, soit entre les deux. Et à ce moment-là, l'être sensible est l'objet d'une connaissance opinative, doxaston, n'est-ce pas? L'être intelligible est l'objet donc de la connaissance intelligible, de l'intellection, et ce qui est entre les deux est l'objet de la dianoïa, de la pensée discursive, hein, non stable, etc. Bon, avec bon, trois objets qui font l'objet de trois modes de connaissance distincts, l'un ne communiquant pas avec l'autre. Hein. Il exclut absolument la doctrine aristotélicienne source empirique de toute connaissance intelligible. Hein, bon, là aussi, intervention, bon, en gros, on ne peut pas faire le détail, évidemment, il remplace tout ce qui ne l'intéresse pas en insérant ici une séquence, le logos est par l'intellect, mais le logos, langage, hein, le mentir, hein, compris comme ça, il est par l'intellect, et l'intellect, il est par le fikr, c'est ce qui, ou al-mufakir, ou al-mufakira, c'est ce qui donne dans la tradition latine, c'est dans les traductions latines, cogitatio, n'est-ce pas? Et c'est la dianoïa, mais justement la dianoïa galénique, parce que c'est une faculté qui est située dans le cerveau. Hein, c'est une faculté qui est comptée parmi les sens internes. Hein, et cette hiérarchie, si vous voulez, entre sens interne et sens externe, elle trouve son origine dans ce semi-pseudo-Aristote, De Memoria, hein, dans les Parvae Naturalia de leur version arabe. Une dernière observation. Alors, il y a, si vous voulez, on est à la source déjà, ici, ce qui est présupposé, c'est toute une théorie de la connaissance des Arabes, hein, qui pose une distinction entre les sens externes, les sens internes, la mémoire, la cogitation qui culmine avec l'abstraction, hein, laquelle conduit à l'intellection de la chose séparée, hein, entièrement séparée de la matière. Toute cette théorie arabe, hein, toute cette théorie de la connaissance arabe est déjà tout à fait là, hein, grâce au De Anima et grâce au texte arabe du De Sensu et Sensato, Jesu al-Marsus. Donc ça nous donne des indications de chronologie relative aussi. On ne connaît la date d'aucun de ces textes, mais on peut dire, selon moi, avec certitude, que la traduction arabe du De Anima préexistait à la production de ceci, et que la fameuse traduction arabe du des Senso et del Sato préexistait elle aussi à ceci. Bon, je ne peux pas le montrer dans le détail, maintenant je finis là, je suis absolument confus, je n'ai aucune notion du temps, je pensais pouvoir en dire beaucoup plus, et bon, alors voilà, mes excuses.
C'est que cette proposition 123, elle est dans la section sur les énades, qui est en quelque sorte le point d'aboutissement de la théologie scientifique de Popper pour fonder le polythéisme. Alors c'est évidemment particulièrement intéressant et paradoxal. Mais finalement, parallèlement, le pseudo-Denis a été confronté exactement à la même difficulté. C'est-à-dire que si vous utilisez Proclus comme base d'une théologie scientifique monothéiste, vous avez un problème avec les énades. Donc la seule solution, c'est une opération d'exérèse, ou bien on les écrase.
Oui, Olivier Bois avait utilisé une très jolie expression pour décrire ça, il avait parlé d'une ontologie décrétée.
C'est ça. Alors ce qui est plus intéressant, finalement, c'est le phénomène à la fois de suppression et d'addition. Et notamment, la suppression de deux éléments qui sont fondamentaux pour Proclus, c'est le caractère, je passe sur la différence entre théon et proton, hein, mais surtout, les dieux pour Proclus sont essentiellement suressentiels. Ouais. Et alors, cette opération, là, est-ce que vous pensez qu'il y a une correction intentionnelle? Est-ce que vous excluez ou n'excluez pas une question textuelle? Le mot est opaque en grec, hein. Ce n'est pas du grec courant. Autrement dit, est-ce qu'il faut tout à fait exclure que le traducteur ait eu quelques difficultés? On n'en sait rien. Pour Areton et Agnoston, il faut rappeler évidemment que ce sont des traductions des termes mêmes, enfin, des termes différents de la conclusion de la première hypothèse du Parménide chez Platon. Oui. Il y a déjà une longue histoire en anglais. Ça, c'est la première suppression, le caractère suressentiel. L'autre qui est intéressant, il n'y a aucune référence à la participation. Ça veut dire que la notion de participation est philosophiquement complètement effacée de l'adaptation.
Puisque justement, la clé de la distinction entre l'être premier, absolument, entre l'un absolument inconnaissable et les énades qui sont connaissables par l'intermédiaire de ceux qui participent d'elles, impose la reconnaissance d'une pluralité du divin, d'une certaine façon, qui est rigoureusement inimaginable. Effectivement, la participation est complètement... Elle est remplacée par le passage qu'on a vu hier avec Richard Taylor. Elle est justement avantageusement remplacée, vous voyez, par ceci. Ceci, c'est ce qu'on a dit hier, c'est du plotin arabe, qui a lui-même sa propre histoire, hein, et qui remonte à Énéade 5, je ne sais plus le nom de Énéade 5, ultimement qui remonte à Énéade 5. Et on se sert alors, très à propos, pour remplacer justement le manque de la participation comme explication, on va se servir de l'image de la lumière et de la source de toute lumière. La source de toute lumière est elle-même, elle est au principe de l'éclairage de tout le reste, hein, mais elle ne diffère pas essentiellement, puisque la source de lumière, elle est aussi lumière. Hein. Simplement, elle est lumière qui n'est plus éclairée par rien d'autre. Hein. Et ça donne effectivement cause de ce monde qui s'éclaire de la lumière de la cause première. Hein, car la cause qui éclaire à titre premier éclaire son effet, elle-même ne s'éclaire d'aucune autre cause. Hein, vous voyez, à partir de là, on peut rapatrier la cause première dans l'être, hein, comme source de l'être. Même qu'il y a une source de l'être et une source de la lumière. Et très,
mais en même temps, ce qui est très intéressant dans cette
situation,
c'est que la métaphore de la lumière est elle-même une manière de dire la participation dans le néoplatonisme post-plotinien. C'est-à-dire qu'être éclairé par, ça veut dire participer d'eux.
Mais justement, donc, sur le pied, vous savez, donc alors vous voyez à quel point les gens qui font ça savent ce qu'ils font.
Oui,
c'est
bien. Alors ma dernière suggestion, une question, c'est que vous avez montré de manière très intéressante, malheureusement le plus vite, qu'on a, du point de vue de la théorie de la connaissance, mais dans trois niveaux dans la, chez Proclus, noéton, dianoéton et doxaston, et qu'il y a quatre niveaux de l'autre côté où on a l'intellection, ce que vous avez appelé l'équivalent d'une dianoïa galénique qui se trouve dans le, le cerveau, l'imagination et la sensation. Et alors, évidemment, là interviennent les lectures d'Aristote. Alors, dans mon souvenir, mais ce sera à contrôler, il y a des nuances dans la tradition du commentarisme antique quant à la position relative de la dianoïa et de l'imagination. C'est-à-dire que là, et ce serait peut-être intéressant de faire le point sur le dossier grec pour voir si, au fond, ce que vous montrez ici se rapprocherait plutôt de tel ou tel auteur. Donc, vous avez des listes très scolaires dans les commentaires d'Aristote et pas uniquement dans les commentaires du De Anima. Vous en avez même dans les commentaires sur l'organe, sur les premiers analytiques, si vous voulez. Alors, je ne sais pas si ça donnerait quelque chose pour essayer de peut-être de serrer un peu plus la source. Donc, c'est une idée peut-être.
Absolument. L'essentiel est que là, on rapatrie complètement la présence empirique. Là, l'intellection vient de la cogitation. La cogitation vient du sens. La cogitation vient de l'imagination, elle est faite avec des formes de l'imagination, elle se fait sur des formes de l'imagination, et les formes de l'imagination sont tirées des sens. Ça, c'est la théorie arabe standard, elle est déjà là. Et elle suppose en même temps une très grande connaissance de la théorie de Proclus, qui est éludée à dessein, n'est-ce pas? Parce que, regardez comment est rendu ute un doxaston. La personne qui réécrit dit la taqaro. C'est-à-dire qu'il sait, la personne qui a écrit ça, elle sait que, selon Proclus, c'est le sensible qui est l'objet de la doxa. Et d'autre part, il témoigne qu'il rapatrie dans la sensation le warm, qui est l'imagination. Donc, la distinction sens externe au sens interne est déjà tout à fait présente. Hein, et elle est plaquée là-dessus. Là, c'est une richesse inouïe. Hein, vous voyez. Alors, quand on dit, je veux dire, comme maintenant, évidemment, on commence à en revenir, mais quand on dit que ces textes sont des sous-produits, qui n'ont aucune valeur pour la connaissance du néoplatonisme, ce sont des adaptations bêtes et méchantes, etc., on a tout faux. Si on lit une traduction française ou anglaise de ce texte-ci, de ce texte-là, on ne peut pas voir toutes ces connexions. Il faut travailler sur les langues. Il faut travailler sur le corpus grec et sur le livre en arabe. Parce qu'à chaque étape de transfert linguistique, on redistribue les cartes. Et narratio pour le sépa, ça n'a rien à voir. Vous voyez, et puis ça donne, à ce moment-là, possibilité de nouvelles interprétations, celles, notamment chez Albert Le Grand, de l'ineffabilité. On retombe sur nos pieds d'une certaine manière, mais on laisse échapper tout le contexte proprement islamique du problème des séfars. De toute façon, je veux dire, on peut. On peut vraiment appréhender la. L'intérêt de textes pareils que quand même la microchirurgie textuelle.
Vous avez raison, parce que les hellénistes ont vraiment besoin de ce genre d'explication, parce que la réaction spontanée d'un helléniste de base, la première fois qu'il ouvre le Liber de Causa, c'est d'être consterné.
Bien sûr, je sais. Mais je sais, vous me l'avez dit il y a déjà plusieurs années.
Non, mais ça, c'est vraiment.
Est-ce que vous avez des commandes? Non.
C'est pas
tellement. Well,
juste une dernière petite question. Oui. Est-ce qu'il y a une volonté de faire disparaître votre Proclus, de le faire oublier dans cette réflexion?
Si tu veux, oui et non. C'est ce que je disais au début, si tu veux. Il est possible que ces gens, d'abord, aient cru que c'était de l'Aristote, et que c'était de l'Aristote falsifié. Il est possible que la volonté soit trafiquée, bidouillée. Ça, c'est aussi une hypothèse tout à fait possible. Et que, grâce à notre bonne connaissance d'Aristote, on rétablit les choses comme il faut. C'est tout à fait possible. Donc, volonté de faire disparaître son plus, non, ça me paraît. Je ne sais pas si. Je ne sais pas si on savait que c'était de plus, on en savait peut-être. Alors là, c'est évidemment, il faudrait demander son opinion à Richard Taylor. Savait-on que ce n'était pas d'Aristote quand on travaille dessus, au moment où on travaille dessus, ou non, c'est une question difficile. Mais si c'est de l'Aristote, c'est évidemment du très mauvais Aristote, et peut-être un Aristote falsifié. À partir de là, si tu veux, si je fais disparaître tout ce qui est de Proclus, ça peut te redonner du vrai Aristote. Peut-être que l'intention n'est pas malveillante et n'est pas falsificatrice.
Nous avons 5. Merci.
Yes. Oui, Marc, mais quand même, vers cette même époque, il y a quand même la traduction d'autres parties des éléments de théologie. Là, on savait parfaitement que c'était du Proclus. On a du mal à penser que les gens qui travaillaient dans le bureau à côté, qui traduisaient les éléments de théologie de Proclus, sachant que c'est du Proclus. Et les braves gens de l'autre qui travaillaient sur ça, ça ne le savaient pas. Moi, j'ai du mal.
C'est pas possible, mais d'ailleurs, les autres, alors l'hypothèse, une des hypothèses, c'est qu'il y a eu une traduction de Proclus, peut-être très large, voire intégrale des éléments de théologie en arabe, une traduction beaucoup plus littérale, et qu'ensuite, on a adapté sur une traduction déjà faite en arabe, une traduction plus littérale. Et il y a des paraphrases divergentes. La dernière fois, on a vu avec le travail d'Elvira Wackenick, que vous avez les mêmes séquences des éléments de théologie qui, dans des parties différentes du Proclus Arabus, sont enchâssées, mais avec des paraphrases différentes. Donc l'hypothèse, si vous voulez, que ça suggère, c'est qu'il y a eu une traduction, sinon intégrale, large, et assez continue, disons, des éléments de théologie, et qu'ensuite, les gens s'en soient emparés. Savait-on ? Quand on a fait la traduction au départ de Proclus, que c'était Proclus. Et si on le savait, on devait considérer que Proclus était un fidèle disciple d'Aristote et qu'il n'avait pas pu écrire ça. Tout philosophe était un disciple d'Aristote, dans la Pauvelkin, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de distinction. Il y a l'unité de la vérité philosophique. Il ne faut pas oublier aussi le thème, l'importance prise par le thème concordataire, lancé par Ammonius et puis. Réitéré ensuite, repris par Al-Farabi. Et il y avait un enjeu fondamental, théologique aussi, c'est-à-dire que si les philosophes ne sont pas d'accord entre eux, ça ne vaut rien leur truc. Ça, c'était aussi très très fréquemment dans la littérature de l'époque, c'était un argument fréquent aussi. À partir de là, il y a une nécessité vitale, si on veut, comme Richard le disait hier, défendre la position de la philosophie dans un contexte qui s'y prête moyennement, disons. On avait une nécessité vitale à pouvoir répondre à l'objection qu'il y ait des philosophes qui ne sont pas d'accord entre eux. Donc, il y avait une vérité universelle. Il ne peut y avoir qu'un seul Coran, de même un seul prophète, un seul Mahomet, de même il n'y a qu'un seul Aristote. Aristote, c'est peut-être le Mahomet de la philosophie, de la même façon que Mahomet. Il y a probablement un parallèle.
Let me add one comment.
Il peut pas y avoir plusieurs versions du Coran. De la même façon, il ne peut pas y avoir plusieurs versions de l'explication de la vérité rationnelle.
I want to add one comment, which Professor Hoffman's comments made me think of as well, regarding the notion of light used here. Very curiously, there is a very small reference in the Liber de Causis to De Anima 3.7, the final lines of De Anima 3.7, which reminds us that the author knew something about the De Anima as well, and perhaps connects then with the
paraphrase. Lire ensemble Le dernier mail est par la naturalia, c'est ce que fait plus tard Avicenne, hein, parce que dans son dernier mail, il combine les deux sources. Hein, et en fait, cette perspective est déjà là.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.